L'évangéliste saint Luc nous présente les fameuses béatitudes, cette charte de la vie chrétienne si paradoxale et qui nous déconcerte toujours. Eh bien, nous sommes bien heureux si nous sommes déconcertés par ce texte, en effet, car nous sommes ainsi alors peut-être ouverts davantage à scruter quel est le sens des paroles que Jésus nous adresse ce matin. Il est assez étonnant de remarquer les différences qui existent entre le récit des béatitudes chez l'évangéliste Matthieu et chez Luc. Luc introduit par une expression étonnante qui nous intrigue. Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara. Quand Jésus regarde, quand Jésus scrute ses disciples, ce n'est pas un simple regard banal, juste pour vérifier si on l'écoute. C'est beaucoup plus que cela. C'est le Fils de Dieu qui regarde le cœur de ses disciples, et il connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il connaît cette profonde aspiration au bonheur que l'homme porte en soi. Et c'est bien la volonté de Dieu que d'exaucer ce désir vrai de bonheur, comme nous l'entendrons tout à l'heure dans la prière sur les offrandes. Le bonheur que Dieu leur a promis, prierons-nous. Jésus donc interroge le cœur profond de ses disciples. Un deuxième indice qui sépare très clairement Luc de Matthieu. Chez Matthieu, nous avons des déclarations générales. Heureux ceux qui, ceux qui, ceux qui. Ici, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus incisif. Heureux vous, les pauvres. Vous qui avez faim. Vous qui pleurez. Comment comprendre ce langage? Certes, si nous l'entendons au premier degré, nous risquons bien de faire fausse route. Il ne s'agit pas de se construire un cœur pauvre. Il est déjà pauvre. Il ne s'agit pas de se mettre dans une gêne qui nous ferait oublier de manger. Nous sommes déjà des affamés de bonheur et d'amour. Il ne s'agit pas de se complaire dans une tristesse, dans les pleurs. Nous sommes déjà, comme Adam, chassés du paradis terrestre, qui portons cette nostalgie en nous, une nostalgie incisive qui nous fait pleurer. À la différence des béatitudes, nous avons les commandements qui, justement, nous invite à faire ceci, à faire cela. Rien de tel dans les béatitudes. Les béatitudes sont à recevoir comme une sorte de miroir de notre cœur. Elles nous disent cette indigence profonde qui est la nôtre, mais elles nous disent aussi cette espérance qui est la nôtre, d'avoir un cœur vraiment comblé par celui-là qui peut seul le combler. Les béatitudes sont pour nous ainsi un appel à la lucidité sur la manière dont notre cœur d'homme est constitué. Et devant ce constat de pauvreté, de peine, d'indigence, nous avons à saisir qu'il s'agit en fait d'un appel de Dieu, Car lui qui connaît le cœur de l'homme, qui le connaît vraiment, il est le seul à pouvoir le combler. Non pas de ses petits bonheurs, tellement passagers, égoïstes, qui sont souvent simplement l'expression de notre convoitise, mais du vrai bonheur, ce bonheur qu'il a promis. Et ce bonheur qui fait notre soif, ce bonheur qui nous tire en avant, comme le dira aussi la prière après la communion, qui est une véritable supplication, tellement adaptée à ce qu'est notre cœur, que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Voilà ce qui peut réellement combler un cœur humain, lucide sur lui-même, et qui accueille cet appel au bonheur que Dieu fait retentir constamment. Dans sa première lettre aux Corinthiens, la deuxième lecture que nous avions tout à l'heure, Paul osait dire « Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Si Dieu n'est pour nous que celui qui va combler nos petits bonheurs, nos faux bonheurs, malheureux sommes-nous. Nous n'avons pas compris qui il est. Surtout, nous n'avons pas compris quel est le vrai désir de notre cœur. Et c'est ainsi que Jérémie pouvait nous dire, dans la première lecture, « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est sans inquiétude et il ne manquera pas de porter du fruit. » Certes, à chacun de nous, l'année de la sécheresse dont parle Jérémie, à chacun de nous, il est donné de vivre cette année de la sécheresse, appelons-la comme on veut, ce temps de l'épreuve. Aucune vie humaine ne peut y faire exception. Mais une chose est certaine, c'est que si nous sommes réellement ancrés dans le Seigneur, alors, avec lui, nous découvrirons ce qu'est notre vraie vocation au bonheur.